Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, prononçait ce matin au Parlement européen de Strasbourg son discours annuel sur l'état de l'Union. 2 ans après le vote sur le Brexit et avant que les négociations de sortie du Royaume-Uni aient véritablement commencé, avec la Pologne qui se détourne et la crise des migrants dont le coût est inégalement partagé, l'Europe semble à la peine. Mais n'est-ce pas au contraire une chance de la relancer, de faire avancer une Europe délestée de pays qui refusent d'aller plus loin dans l'intégration, c'est ce que veut croire Emmanuel Macron qui, il y a quelques jours, à Athènes plaidait pour une Europe refondée. L'Europe en panne ou enfin sortie de toutes ces crises, c'est la question de ce débat. Et pour y répondre, nous avons le plaisir d'avoir 2 invités en studio avec nous. Pascale Johannin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la Fondation Robert Schuman, qui est un centre de réflexion et d'études sur l'Europe et qui œuvre en faveur de la construction européenne. Et Jacques Généreux, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris et vous êtes engagé politiquement, d'abord au Parti Socialiste, puis au Parti de Gauche. Et c'est vous qui avez coordonné l'Avenir en Commun, qui est toujours d'ailleurs, le programme de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle. Vous avez tous les deux écouté le discours de Jean-Claude Juncker ce matin, où vous en avez eu des échos. Il a parlé de la création d'un poste de super ministre européen des finances et de l'économie, de commerce international, de contrôle des investissements étrangers, chinois pour ne pas les nommer, des travailleurs détachés, des migrations, enfin de tous les sujets qui sont au cœur de l'actualité européenne ces dernières semaines. Qu'en avez-vous pensé, Pascale Johannin ?
Mais je trouvais que c'est un discours qui était assez offensif, parce que d'abord c'est le président de la Commission, donc il avait son rôle de remettre un petit peu les choses à l'endroit. L'année dernière, quand il avait fait son discours, on avait juste le Brexit qui venait d'être voté par les Britanniques, et on avait l'impression que l'Europe allait se déliter et que les Anglais étaient les premiers à se retirer de cet ensemble. Il n'en a rien été. On voit qu'un an après, les Anglais sont tout seuls à être partis et que aucun, pour l'instant, autre État membre ne souhaite emboîter le pas aux Britanniques. Et donc, c'était un peu rappeler un petit peu quels sont les enjeux de cette Europe pour dire il faut qu'on aille plus loin. Dans un certain nombre de domaines, on peut pas en rester au statu quo actuel. On a des décisions à prendre. Je peux, moi, en tant que président de la Commission, proposer, puisque c'est la force de la Commission de proposer, mais il faut que les États, et ça c'était un discours véritablement pour les États membres, vous preniez enfin le taureau par les cordes et que quand vous vous réunissez, vous preniez les décisions qui sont les bonnes pour les citoyens européens, pour l'avenir de ce continent, dans une mondialisation qui existe et où la place de l'Europe est celle qu'elle a, mais où en effet on a des adversaires ou des challengers qui sont là et qui seraient ravis que l'Europe périclite alors qu'elle peut peut-être rester une force au sein de des affaires mondiales.
Jacques Généreux, est-ce que vous avez été surpris ou pas vraiment de ce que vous avez pu entendre ce matin ou ce que vous avez eu comme écho ?
Non, je suis pas surpris. C'est-à-dire que le souci qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'une crise en chasse une autre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a appelé la crise des migrants a mis sur le devant de la scène un problème, et un problème important et singulier. Il a très certainement, cela a très certainement contribué d'ailleurs au Brexit, où les Anglais qui ont voté pour le Brexit ont voté pour de très mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'objectivement, ils n'avaient aucun intérêt sur le plan économique et social à sortir de cette Union européenne. Je pense que beaucoup commencent à s'en rendre compte maintenant. Ils sont sortis pour des mauvaises raisons, au terme d'une campagne xénophobe, anti-étranger. C'est épouvantable. Bon. Mais donc, ce sujet est devenu évidemment d'une importance évidente. Et du coup, on a un petit peu oublié, y compris M. Juncker, qu'on sort d'une dizaine d'années pendant laquelle, ça va faire 10 ans maintenant, depuis la crise financière de 2008, l'Europe a été lamentable dans la gestion de cette crise. Elle a suivi des vieux préceptes datant des années 20 du siècle dernier. On a mené des politiques stupides. La Banque Centrale Européenne a fait ce qu'elle a pu, mais en réalité, elle n'a fait que continuer à alimenter les bulles, d'autres bulles spéculatives, d'autres bulles financières. Les politiques budgétaires ont été une abomination. L'euro n'est pas un système viable tel qu'il est là. Et donc, ce qui est hallucinant dans ce discours, c'est que il y a des choses sensées, bien évidemment, mais alors il y a une grande impasse. C'est où est le vague projet, au moins l'idée que peut-être il serait temps de réformer profondément la question des normes budgétaires dans l'Europe, en particulier dans la zone euro. Où est la réforme de la Banque Centrale Européenne? Où est le constat qu'effectivement il y a un vrai problème de dysfonctionnement et d'incompatibilité du système euro actuel pour un fonctionnement efficace? Alors là, on fait l'impasse totale. Et donc ce sujet reviendra sur la scène parce que nous, de nouvelles crises financières catastrophiques sont devant nous et l'Europe sera à nouveau totalement impuissante à y faire face. Et là, peut-être que l'euro éclatera pour de bon.
Vous voulez dire que tout ce qui a été mis en place, l'union bancaire ou ce qui est en train d'être mis en place pour protéger l'euro, tout ça ne va servir à rien dans un avenir proche?
Un petit peu, mais à pas grand chose. C'est-à-dire que la réalité, vous savez, moi je côtoie beaucoup de spécialistes de la finance qui travaillent sur ces questions, et j'en ai même édité quelques-uns au Seuil. Comme par exemple le banquier Jean-Michel Nolot, l'économiste François Morin, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Ce qu'on sait, on n'a pas commencé de s'attaquer, par exemple, en termes d'instruments financiers spéculatifs, aux vrais gros problèmes que sont les produits dérivés, des produits parfaitement et uniquement spéculatifs. On n'a rien fait. On fait des régulations à minima. Donc on est toujours, la finance européenne est toujours ouverte, libre circulation des capitaux, à n'importe qui de produits financiers toxiques qui peuvent venir continuer de polluer les bilans de nos banques. Bon, ça, je prends un exemple. Ça n'est pas réglé. Mais surtout, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait si, et ça va arriver, il va y avoir d'autres chocs conjoncturels, d'autres crises financières, d'autres récessions. Qu'est-ce qu'on fait si on reste dans un modèle où les États européens, de par les traités, ne peuvent pas mener des politiques de relance adéquates, soutenir leurs demandes? Donc, on laisse le boulot à la Banque Centrale Européenne, qui injecte des liquidités par milliers de milliards, ce qui ne sert à rien, parce que quand il n'y a pas d'activité, il suffit pas qu'il y ait de l'argent et des liquidités disponibles pour que les banques se mettent à prêter, que les gens se mettent à investir. On l'a expérimenté, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à une nouvelle situation de crise? Et qu'est-ce qu'on fait pour sortir d'autres pays qui sont pas encore sortis réellement de la crise?
Pascal Johannin, je crois que vous êtes un petit peu plus optimiste sur l'avenir de l'Europe. Alors, je ne sais pas sur ces questions de rôle de la Banque centrale et d'équilibre entre les institutions financières. Je voulais revenir sur une question très simple. Est-ce que le départ de la Grande-Bretagne, dont on a eu le sentiment pendant des années, depuis qu'elle est rentrée dans l'Union européenne, dans la communauté européenne à l'époque, elle était là pour la torpiller. Est-ce que le départ de la Grande-Bretagne, c'est une chance pour l'Europe? Est-ce que l'Europe est délestée des Britanniques?
Alors, elle l'est pas encore. Les Britanniques sont là. Les Britanniques sont là jusqu'au mois de mars 2019, puisqu'ils ont invoqué l'article 50 du traité au mois de mars dernier, et que il y a deux ans dans les traités pour que le pays sorte vraiment. Ce qui est certain, c'est que il y a un an, quand les Anglais ont voté, on pensait qu'en effet, ça allait être le début du détricotage. Et finalement, on se rend compte que les 27 autres pays ont plutôt fait front de manière unie sur cette question. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit non. Nous, on a peut-être en effet, ça va pas toujours bien en Europe. Je reconnais aussi qu'il y a des choses qui devraient être améliorées. Mais dans l'ensemble, c'est un projet qui nous satisfait et on va pas suivre les Britanniques. Et de fait, il y a eu un front uni. Et donc, on a eu plusieurs réunions à Bratislava, à Rome. Il y en a d'autres qui sont prévues. Et il y a une union, une unité de l'Union qui dit on va continuer ensemble et on veut tous faire partie de la même union. Ce qui implique pour la zone euro, par exemple, que les pays qu'ils n'ont pas encore rejoints pour des raisons politiques ou des raisons économiques, puisqu'il y a des critères pour adhérer à l'Union, devraient le faire. Et qui veulent pas d'Europe à deux vitesses, on l'a encore vu chez les Polonais, etc.
Parlé, oui.
Donc, il y a en effet cette union qui est là. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, en matière économique, mais pas que, en matière sécuritaire, en matière migratoire, pour qu'il y ait des réponses qui sont vraiment au niveau européen, parce qu'on voit bien que les immigrants, ils viennent, le premier pays d'accueil a longtemps été la Grèce, on a fait un accord avec la Turquie, alors maintenant, c'est les Italiens. Même si l'Italie est un grand pays, on ne veut pas les laisser seuls gérer ces migrants. Parce qu'en effet, dans les migrants, il y a les réfugiés, il y a ceux qui viennent pour des raisons politiques, et puis il y a en effet un flot de gens qui viennent aussi pour des raisons économiques. On a besoin de migrants, puisque la démographie européenne n'est pas suffisante, mais on ne peut pas prendre tous les migrants. Et puis il y a aussi les Espagnols qui sont très proches aussi. Donc il y a toutes ces questions qui sont sur la table. Et la question que disait Jean-Claude Juncker aujourd'hui, c'est on a un temps plus calme économiquement, il y a une embellie momentanée en tout cas.
Relative.
relative. Enfin bon, la croissance revient par rapport à des périodes où en effet on a été vraiment dans des périodes de tempêtes, non pas cycloniques mais économiques. On revient sur des choses qui sont une mer plus calme, et c'est peut-être le moment de réparer le bateau, de regarder les voiles si elles vont bien, pour que la prochaine fois, je ne sais pas dans combien de temps elle sera, en effet, le bateau européen soit mieux armé. Mieux armé économiquement, mais mieux armé également sur d'autres politiques, où on a l'attente de citoyens qui disent « Moi, je suis bien content de vivre en Europe, mais est-ce qu'elle va répondre à toutes les questions qui sont celles qui se posent en ce moment ?»
Est-ce que, au fond, le problème de l'Union européenne, c'est un problème institutionnel ? C'est-à-dire qu'on est sur une Union européenne à 27. Manifestement, on parle depuis plusieurs années d'une Europe à plusieurs vitesses. Tout le monde n'a pas l'air complètement d'accord. Et le problème, justement, pour faire évoluer l'Europe, c'est qu'il faut l'unanimité entre les pays. Jacques Généreux, est-ce que le nœud du problème, c'est pas un problème institutionnel, puisqu'il y a l'unanimité pour faire évoluer les traités, et qu'on l'a vu par le passé, c'est un petit peu compliqué.
Oui, mais les institutions reflètent un projet. Donc c'est un problème de projet. Tant que l'Europe était juste une coopération technique intergouvernementale, finalement, ça dérangeait personne, parce que ça avait plutôt que des effets positifs, voilà, des économies d'échelle, etc. Et puis, il y a un moment, et ça a tourné très clairement dans les années 90 de manière très orientée, où on a approfondi, notamment avec la monnaie unique, c'est très clair. Qu'est-ce que ça veut dire que des gens se mettent dans une même monnaie? Ça veut dire forcément qu'ils doivent avoir un projet politique commun extrêmement fort. Ils doivent avoir une même vision des politiques économiques
une politique économique commune, par exemple.
S'ils ne peuvent plus dévaluer entre eux, ça veut dire qu'ils refusent de se faire de la concurrence par la baisse des impôts, des cotisations sociales, à se livrer une guerre épouvantable.
Des fiscalités proches.
Ce qui s'est passé. Donc le problème est très simple. C'est-à-dire, ou vous avez une simple coopération technique entre des États, c'est de la coopération internationale, ou vous décidez d'aller plus loin. Le problème, c'est que si vous décidez d'aller plus loin dans l'intégration, vous avez un problème véritablement de légitimité politique démocratique à imposer des politiques communes à toute une série de peuples qui n'ont pas forcément envie d'être commandés par les autres. Et donc, en effet, la grande tragédie, c'est que quand on était dans une Europe à 12, 13 et encore 15, à ce moment-là, il fallait faire l'approfondissement avant de faire l'élargissement. Il fallait en effet reposer des bases d'une vraie coopération politique, communauté de destin, dire l'Europe, c'est une union. On va pas se faire la guerre les uns contre les autres. On va pas transformer l'Europe en un marché libre, en un champ de bataille où chacun donnera tous les coups possibles pour améliorer ses parts de marché. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas approfondi, on n'a pas empêché le dumping fiscal et social, on a élargi à des tas de nouveaux pays, et c'était très bien géopolitiquement, il fallait les accueillir dans l'Europe, mais peut-être dans une Europe à différents étages. Donc ça, cette Europe, donc du coup, elle a échoué pour cette raison. On l'a détruite parce qu'on a transformé cet espace qui est un espace de paix et de coopération en un espace de guerre économique. C'est ça le sujet. Il faut sortir de la guerre économique et revenir à une logique de coopération économique et sociale. Mais peut-on le faire à 27, 28, 29, 30, je crois pas.
Pascal Johannin.
Il faut recommencer à 6, 7, 8.
Quand il y a un Conseil européen, c'est tous les 3 mois à Bruxelles, vous avez 27, 28 États qui se mettent autour d'une table et qui parlent chacun à leur tour. Et il faut l'unanimité entre eux. Très franchement, c'est impossible, ça peut pas marcher. J'en ai couvert plusieurs, c'est quand même étonnant comme façon de fonctionner.
Ah mais tout à fait. Mais vous savez, d'abord, l'unanimité, ça reste quand même la règle dans un nombre limité de cas. Et si je regarde bien le discours de Jean-Claude Juncker, parce qu'en effet, l'Europe, c'est un projet politique. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Généreux. Il y a en effet, les pères fondateurs, c'était un projet politique qu'ils voulaient faire, à 6. Bon, maintenant on est 27, alors c'est une réalité, etc. Mais quand je vois le discours de Jean-Claude Juncker, en effet, il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait en matière fiscale et sociale, mais tout simplement parce que c'était une question de volonté politique, elle n'était pas là. Elle n'était pas là, les hommes politiques ont fait des choix à l'époque. Aujourd'hui, c'est la question de Jean-Claude Juncker, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille plus loin en matière fiscale, et il a décidé que c'était à la majorité qualifiée que maintenant les décisions devaient se prendre, en matière sociale, pareil. Mais ces deux domaines pour lesquels, en effet, il y a une vraie attente, étaient des domaines pour l'instant où, dans les traités, tels qu'ils étaient, c'était pas l'Europe qui pouvait faire, c'était les États. Et alors, si les États en Europe ne veulent pas que la Commission européenne fasse des choses pour essayer de monter en avant un projet européen, elle ne peut pas s'arroger ses pouvoirs toute seule. Oui. Donc, il fallait bien que ce soit les États. Et là, en effet, on a une vraie question, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a un constat, est-ce qu'on avance alors, tous ensemble, ça sera peut-être difficile, l'Europe aujourd'hui permet de s'il y a quelques pays, une majorité quand même, il faut bien le rappeler, qui sont d'accord, on peut commencer, quitte à ce qu'en effet les pays qui sont les moins disants ou qui sont gênés aux entournures politiquement ou etc., les rejoignent après.
Donc les coopérations renforcées, c'est possible.
Les coopérations renforcées, c'est possible, mais on doit en effet commencer à travailler sur des domaines qui sont fiscales. En effet, on n'a aucun intérêt à se faire de la concurrence fiscale à l'intérieur des 27. La concurrence fiscale, elle se fait plutôt avec les partenaires extérieurs. Tout comme en matière sociale, quand on voit en effet cette directive travailleurs détachés, ben en effet, il y a des différences sociales, les États ont fait des choix, etc. Donc en effet, qu'est-ce qu'on fait pour que, en effet, il n'y ait plus cette guerre sociale à l'intérieur et qu'en effet, la concurrence, elle se joue non pas à l'intérieur de l'Europe, oui, mais à l'extérieur.
C'est une question donc de volonté politique. C'est donc à l'arrivée une question de personnalité, Jacques Généreux. Est-ce qu'il faut espérer éventuellement qu'un duo Macron-Merkel pourrait fonctionner, changer les choses ?
Non, c'est pas du tout une question de personnalité. C'est vraiment une question de fond, d'histoire longue. Si on prend juste un exemple pour bien comprendre, la question de l'harmonisation sociale. Pourquoi c'est pas possible fondamentalement et qu'on n'y arrive pas ? C'est pas juste parce que dans le traité, un traité prévoit que pour l'essentiel des choses importantes, des sujets qui fâchent, c'est à l'unanimité, donc on peut pas en faire. Donc ça veut dire qu'on laisse la main libre aux États, on peut pas harmoniser les questions sociales importantes. Mais pourquoi ? C'est pas juste parce que c'est dans les traités. Pourquoi c'est dans les traités ? Parce que c'est pas possible de tomber d'accord. C'est-à-dire que vous avez des gens et des gouvernements et des pays qui sont plutôt, disons, d'inspiration libérale, qui pensent que oui, que c'est bien, que l'assurance sociale, ça doit être privé, que baisser les charges sociales toujours plus pour les entreprises, c'est bon pour la compétitivité, et donc c'est leur droit. Et ils sont pas d'accord avec des Français, des Italiens, etc., qui pensent non que la protection sociale et ou des Suédois,
que le rôle de l'État doit être un peu plus important,
élevé, c'est important, etc. Et donc il faudrait harmoniser vers le haut. Alors, il y en a qui veulent une politique unique pour qu'on fasse l'harmonisation par le bas, et d'autres qui voudraient harmoniser par le haut. Comment ils vont se réconcilier ? Ils ne peuvent pas. Et donc il faut bien comprendre le problème politique de fond qui est un problème démocratique, qui est un problème de souveraineté et de légitimité du pouvoir. Vous ne pouvez mettre dans une véritable intégration économique que des gens qui partagent suffisamment les mêmes orientations politiques fondamentales pour que ça fonctionne. Sinon ça tourne à la dictature ou à la domination d'un camp sur l'autre. Donc il peut y avoir une Europe des libéraux qui eux veulent de la libre concurrence, du libre marché, le libre-échange avec les États-Unis, etc., qui veulent une protection sociale minimale à l'américaine, pourquoi pas ? Eux, ils peuvent s'entendre entre eux, mais ils ne peuvent pas s'entendre avec ceux qui voudraient, au contraire, un système plus coopératif. Et le problème, c'est que si on s'obstine à ne pas comprendre ça, c'est le béaba, ce qui fait un pays, c'est le fait que les gens acceptent de se soumettre à la loi majoritaire. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que ce qui les réunit est plus important que leur division éventuelle. Pour qu'une Europe puisse fonctionner, il faut que ce soit la même chose. Mais ça peut pas être la même chose à 27 entre des gens qui ont des histoires, des cultures et des modèles économiques et sociaux en tête extrêmement différents. Donc il faut nous recentrer. Il faut commencer par se recentrer sur les vieux pays européens qui, eux, peuvent faire mettre en place cette coopération et avoir un système, je dirais, par cercle concentrique, qui offre des possibilités pour ceux qui veulent. C'est pas obligé de revenir dans cette logique-là.
Très rapidement, il nous reste une minute à peine. Les choses peuvent-elles évoluer après le 24 septembre et les élections en Allemagne ? Est-ce que Angela Merkel doit se montrer ferme pour des questions de politique intérieure jusqu'aux élections ? Est-ce qu'elle peut se montrer un petit peu plus conciliante ensuite, Pascal Joannin ?
Angela Merkel a déjà annoncé deux, trois choses dans les discours qu'elle a fait récemment, là, depuis le mois de mai, on va dire que Emmanuel Macron est élu. Ils ont fait plusieurs rencontres internationales ou européennes où elle a laissé entendre qu'elle était plutôt favorable à des choses pour lesquelles elle n'était pas jusqu'à présent. Alors bien entendu, il y a un temps électoral en Allemagne, il faut qu'elle gagne les élections, les sondages disent qu'elle le fera, mais elle va gagner les élections et elle sera obligée de faire une coalition. Donc tout dépend avec qui elle va faire la coalition et quel accord de coalition, vous savez que c'est tout écrit de A à Z, etc. Mais il y a plutôt un temps qui est favorable puisque on sait très bien que l'impulsion européenne, depuis l'origine, elle se fait avec la France et l'Allemagne. La France était absente dans le précédent quinquennat. Ah oui. Aujourd'hui, la France revient et donc elle a retrouvé un partenaire. Il faut espérer que ce partenariat franco-allemand permette d'aller plus loin.
Merci Pascal Joannin, merci Jacques Généreux, c'est déjà terminé. Merci à Valentin Vaner et Florence Pons qui ont préparé cette émission. À demain pour un nouveau débat.